D'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux parce que franchement, je vais vous dire que je ne m'y attendais pas, étant donné que le sujet est assez peu attirant. Si vous voulez parler de la confrérie, vous allez m'entendre parler de saints et de saintes pratiquement tout le temps. Alors bon, je me suis dit, c'est pas quand même très attirant, très alléchant. Mais tout cela, bon, parler de Saint Jérôme, de Saint Augustin, parler de Saint Georges, si avec moi ça ne serait pas intéressant. Mais évidemment, vous allez voir que tout ça va être absolument sublimé par la peinture de Carpaccio, qui est un peintre que j'aime beaucoup depuis des années, qu'il m'a beaucoup plu et touché. Alors, nous allons commencer. Vous êtes dans l'obscurité la plus complète. Bon, c'est pas grave. Alors, ce Carpaccio, donc ce peintre vénitien, qu'ici, je sais que tout le monde le connaît, mais ce n'est pas le cas de tous, évidemment, mais ici, j'ai affaire à des italophiles, des italophones et des gens cultivés. Alors, disons qu'il s'appelait à l'origine Vettore Scarpazzo. Il a choisi de s'appeler Vittore Carpaccio, et vous verrez qu'il signe après, en latin, Victor Carpaccius. Donc, on sait assez peu de choses sur lui, mais enfin, on sait qu'il est né à Venise vers 1465. C'est le fils d'un fourreur, Pietro, qui appartient à une très ancienne famille, la famille des Scarpazza, et qui est implantée depuis très longtemps sur les bords de la lagune. Vous l'avez là. Vous voyez, c'est un détail d'un tableau célèbre, les 9 toiles qui sont à l'Accademia, de la légende de Sainte-Ursule. Alors, on pense que c'est Vittore Carpaccio. Barbe rousse avec sa toque noire. Voilà le visage assez peu expressif et assez sévère. Donc je reviens au bord de la lagune et il vient donc au monde à l'heure où la sérénissime est vraiment triomphante, telle que nous l'a décrit par exemple un de nos grands écrivains, un mémorialiste français qui s'appelle Philippe de Comines et qui était diplomate en mission qui a séjourné à Venise parce qu'il préparait pour Charles VIII, son expédition en Italie. Il est venu en 1494. Alors, il se dit, je vous cite quelques mots, émerveillé de voir tant de clochers, de maisons en pierre d'Istrie, de monastères. Et il ajoute, c'est la plus triomphante cité que j'ai jamais vue. Alors, quelqu'un de plus connu un peu plus tard, Joachim du Bellay, donc notre grand poète de la Pléiade, de passage en Italie, vante aussi les charmes de la cité lagunaire. Mais il est beaucoup plus piquant et il se moque, lui, alors avec esprit, de, je vous cite, ces magnifiques doges de Venise, ces vieux sganarelles, quand ils vont en cérémonie épouser la mère, dont ils sont les maris, et le turc l'adultère. Vous avez bien dit. C'est en effet l'époque de l'épanouissement splendide de la République, toujours en guerre contre les Ottomans. Les jeunes patriciens vénitiens ne fréquentent plus seulement l'université de Padoue, qui était la prestigieuse université, parce que à Venise vient de s'ouvrir dans le quartier du Rialto une nouvelle école humaniste à succès. Et c'est là que, disons, dans les tableaux de nous voyons tous ces jeunes étudiants, ces jeunes seigneurs, ces jeunes gens, se pavaner avec sérieux dans les tableaux de Carpaccio. Ici, évidemment, c'est à Rome et c'est pas typique de Venise. Mais c'est l'époque aussi, donc 1464, où Venise se couvre d'édifices couverts de marbre à l'antique, ornés de sculptures, de fresques, de peintures, qui marquent le début de la Renaissance. Alors, nous allons voir le symbole de Venise. Voilà, regardez ça. Quand on le voit, on se pâme en général tellement il est séduisant. Alors, on ne sait pas grand-chose de la formation de Vittore Carpaccio, mais nous avons la preuve qu'il a travaillé dans l'atelier des frères Bellini. C'est toute une famille dont Giovanni sera le plus célèbre. Il a surtout travaillé avec le plus âgé, qui s'appelle Gentile. Il rentrera d'ailleurs en concurrence avec ce dernier pour la décoration du Palais des Doges, où nous pouvons admirer la toile peinte, donc le lion de San Marco, symbole de la Sérénissime, vous voyez là avec sa patte qui tient l'évangile, paix à toi, Marc, mon évangéliste. C'est une des toiles les plus somptueuses que l'on peut voir tranquillement à Venise, mais il n'y avait pas grand monde quand nous l'avons vue dernièrement. Alors, on ne sait pas très bien, mais il a peut-être fait un voyage en Orient. Gentile Bellini, en tout cas, avec qui il travaillait, fut envoyé par la seigneurie à la cour de Mehmet II, dans la ville de Constantinople. Il viendra à Istanbul sous peu de temps. Et Gentile Bellini y vint en 1480, à l'occasion du traité de paix signé entre la République de Venise et l'Empire ottoman. Mais la présence de Carpaccio n'est pas attestée. On sait cependant que Gentile a rapporté de son séjour ottoman un magnifique portrait que vous connaissez peut-être, le sultan Mehmet II, vous voyez, qui a été exposé à Paris il y a quelques années. Mais aussi, c'est intéressant pour Carpaccio, pour l'étude de sa peinture, des carnets de dessins remplis de costumes, avec des costumes orientaux, avec des tapis, des turbans, des manteaux de brocart précieux, qui sont tous d'une fantaisie extraordinaire, tels que nous les voyons portés. Là, ce n'est pas le cas, parce que je n'ai pas une photo sous les yeux, mais par les jeunes seigneurs dont parle Carpaccio, qui sont en principe, quand imaginez la légende de Sainte-Ursule, on en verra tout à l'heure. Parce qu'ils sont de véritables icônes de la mode de l'époque, ces jeunes gens qu'il peint dans tous ses tableaux. Et on les voit à Venise, dans une espèce de Venise totalement enchantée, parce qu'elle est à la fois prise entre le rêve et la réalité. Alors, je vais faire appel à beaucoup de critiques d'art, bien sûr, et commencer par l'un d'eux, qui s'appelle Pompeo Molmanti, alors avec un nom pareil. Bon, il est mort en 1928, donc il nous apprend que Carpaccio a certainement compulsé un ouvrage alors très recherché par les artistes, celui de Bredenbach. C'était un chanoine qui fait un voyage, il a écrit ensuite « Voyage et pèlerinage au tombeau du Christ à Jérusalem ». Et ce bouquin a été illustré de xylographies, c'est-à-dire de gravures en bois, par un certain peintre qui s'appelle Revitsch. Et ces gravures circulaient partout, entre les Flandres, l'Allemagne et Venise. Alors, ces représentations des lieux visités, typiquement flamandes, sont des microcosmes absolument subtils, pleins de menus détails, avec une décoration minutieuse d'animaux familiers, souvent exotiques. Des paons, vous allez voir, des singes, des chameaux, des lions. Et rempli aussi de plantes sauvages, là on en a d'ailleurs toujours au premier plan, qui parviennent à donner un aspect familier, en même temps qu'orientalisant, à certaines toiles de Carpaccio. Alors on pense aussi qu'il serait peut-être descendu à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ces toiles vraiment une omniprésence architecturale de masses qui sont de l'Antiquité, enfin qui rappellent l'Antiquité, et il y a beaucoup d'objets frappés du sceau de l'Antique, donc ça peut nous le faire supposer. En tout état de cause, ces vues extérieures de Venise que se plaît à représenter Carpaccio sont bien les lointaines figurations de ce qu'on appelle les vedute, que tout le monde connaît, les paysages urbains que Canaletto, Guardi et Bellotto ont peints au XVIIIe siècle et que nous avons tous en mémoire. Vous voyez, on peut faire la relation. Alors là, je voulais commencer par vous présenter un des célèbres tableaux de Carpaccio qui s'appelle « Le miracle de la croix ». Ce n'est pas pour la croix que je vous le montre. Je dis tout de suite aussi que Gentile Bellini a utilisé exactement le même thème et qu'on voit ces deux tableaux à l'Accademia. On peut faire la comparaison. Je voulais vous le montrer d'abord car il est typique de la ville à l'époque, en ce début du XVIe siècle. Une ville, comme vous voyez, tourbillonnante d'activités de toutes sortes, tant profane que sacrée, parce que là, bon, il y a une séance de démonisation, si on peut dire. Alors, observons, si vous voulez, l'ancien pont de bois. Ah, c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, il a été remplacé. Il pouvait s'ouvrir, on le voit bien d'ailleurs, pour laisser passer les navires marchands. Alors, vous le voyez qu'il est très visible sur la toile de Carpaccio, et c'est un témoignage ultime, parce qu'il va être remplacé quelques années après sa mort, disons vers la fin du XVIe siècle, par le fameux pont en pierre que vous connaissez tous, le Ponte Rialto, construit en 1588. Alors, je vous le montre aussi parce que c'est un tableau qu'adorait Marcel Proust. Et il en fait un commentaire qui me plaît. Alors je cite, je regardais l'admirable ciel incarnat et violet, sur lequel se détachent ces hautes cheminées incrustées, dont la forme évasée et le rouge épanouissement de tulipes fait penser à tant de Venise de Whistler. Whistler est un peintre américain du 19e. Mais vous voyez comme c'est bien vu, comme c'est bien dit. Alors, nous savons qu'à l'époque de Carpaccio, la République de Venise est elle aussi touchée par la vague humaniste qui est déjà bien vivante en Toscane, surtout à Florence. Un humanisme marqué par l'intérêt nouveau pour les conceptions des anciens, pour les philosophes grecs et latins de l'Antiquité, d'où une autre vision du monde que celle du Moyen-Âge, qui cependant n'ignorait pas ces philosophes. Alors, donc, naissance avec la connaissance de Platon de l'école néoplatonicienne à Florence, bon. Aristote est traduit, et on s'intéresse aussi aux auteurs latins comme Tacite et Cicéron. Et c'est l'époque où justement on met à jour les ruines du Forum antique à Rome en 1482. Alors tout cela favorise, si vous voulez, des nouvelles techniques architecturales, d'autant plus que l'architecte relise le fameux Vitruve, l'architecte latin, dont s'inspira en partie le grand homme de la Renaissance, Léone Alberti. Alors, nous pouvons dire que, parallèlement à Florence, Venise développe, lui, un humanisme. Elle, plus exactement, c'est une femme. Florence, c'est plutôt un homme. Venise, c'est une femme. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les voit. Donc, elle développe un humanisme marqué par de nombreuses officines d'imprimerie, spécialisées dans les textes grecs et leurs traductions. Alors, un des plus grands imprimeurs, dont on nous a déjà parlé ici, Alde Manucci, hein, qui est très connu, Manuzio en italien. Il y en a bien d'autres que je ne vais pas vous citer. Mais c'est surtout après la prise de Constantinople par les Turcs, donc en 1453, vous voyez, il était déjà né, que les savants byzantins viennent s'installer définitivement à Venise, ce qui va accroître la science des Vénitiens, parce que ce sont des spécialistes en philologie et des traducteurs de langues anciennes. Alors, nous retrouvons notre Carpaccio. Vous pouvez au passage admirer l'élégance du manteau de ces messieurs. Et moi, je reviens donc à l'école d'Almate parce que ce que nous savons et ce qui importe, parce que finalement on ne sait pas grand-chose, mais pour le comprendre, il faut insister sur le rôle qu'il a joué dans les scuole vénitiennes, c'est-à-dire dans les écoles. Ce ne sont pas des écoles, ce sont des confréries charitables et de bienfaisance protégées par les grandes familles vénitiennes, d'où les emblèmes peints et les portraits des commanditaires que Carpaccio représente fidèlement dans son œuvre, dans toutes ses œuvres. Alors, pour aller à l'essentiel, on peut diviser sa longue période artistique en quatre grands cycles de peinture qu'il exécuta pour certaines écoles de Venise, c'est-à-dire des confréries. Alors, entre 1490 et 1496, l'histoire de Sainte-Ursule, ben, c'est justement un détail, pour la confrérie homonyme de nos jours, qui est à l'Accademia. Hein. Entre 1502 et 1507, le cycle de peinture pour la confrérie de San Giorgio degli Schiavoni, Saint-Georges des Esclavons, conservé dans leur site d'origine et dont nous allons parler ce soir. 1504-1510, cycle de peinture avec des épisodes de la Vierge pour la confrérie des Albanais. Et aussi, ils étaient très présents à Venise, comme les Dalmates, visibles au musée Correr, à la Cadoro de Venise, ainsi qu'à l'Académie Carrara de Bergame et au musée Brera de Milan. Et entre 1511 et 1520, il travaille sur un cycle de peinture contenant des épisodes de la vie de Saint-Étienne, pour toujours pour la confrérie homonyme. Alors vous en avez au musée Brera de Milan, au Friedrich Museum de Berlin, à la galerie de Stuttgart et un seul tableau au Louvre de Paris. Je te regarde parce que. Voilà, on en a parlé. Je vous excuserai de cette. Voilà, bon, bref. Je reviens à nos somptueux manteaux. L'essentiel de l'activité de ce peintre est donc représenté par ces quatre grands cycles, accomplis pendant un demi-siècle qui fut l'un des plus féconds de toute la peinture vénitienne. c'est vers la moitié du XVe que nous trouvons la marque de la Renaissance florentine dans la tradition byzantine qui se prolongeait à Venise avec la forme picturale qu'on a appelée le gothique international, qui est picturale ou architecturale ou sculpturale. Et on la retrouve chez des peintres que vous connaissez bien sûr de nom et pour certaines œuvres, comme Pisanello par exemple, et Gentile da Fabriano. Donc vous voyez qu'il y a tout un mélange de style et de culture. Car le classicisme féerique, je prends une expression d'un des critiques, propre à Carpaccio, diffère de l'art florentin qui, comme vous savez, porte le message de la Renaissance d'une manière très différente. Il n'y a qu'à penser à Masaccio, par exemple. Transposée à Venise, cette révolution fut l'œuvre de Mantegna. Alors, vous savez qu'il est venu là, il a épousé la sœur de... la sœur de Giovanni Bellini, il est le beau-frère de Giovanni, et il est protégé de la marquise de Mantoue, la fameuse Isabelle d'Este, qui était une furieuse collectionneuse et mécène. Et vers 1450, on voit aussi venir à Venise Antonello da Messina, qui a porté sa connaissance des techniques de la peinture flamande, dont l'influence, vous allez le voir, est nette chez Carpaccio. Alors on peut dire que ce Carpaccio, notre Carpaccio, eut la chance de se trouver au point culminant d'une période du gothique finissant avec le début de la Renaissance qui débute fin XVe pour se poursuivre au XVIe avec ce qu'on a appelé les grands vénitiens. Alors ils sont bien plus connus, c'est-à-dire Giorgione, le Titien, le Tintoret et Giovanni Bellini, tous contemporains de Carpaccio, mais plus célèbres que lui en leur temps. Car ces derniers, vous le savez pour ceux qui étudient beaucoup la peinture, que justement ils sont porteurs d'un nouveau langage artistique qui laissa dans l'ombre les dernières années de Carpaccio, ce peintre qui fut jugé comme archaïque. On sait à peine comment il vécut ces dernières années, on sait seulement qu'il est descendu sur la côte d'Almate et une lettre de son fils à la République de Venise, des histoires d'affaires, d'argent, nous apprend qu'il est mort en 1526. Donc, vous voyez que Carpaccio apparaît comme un solitaire dans le paysage du milieu pictural vénitien de cette époque charnière. Son univers, à lui, est plutôt d'ordre féerique. Dans le ton des contes et nouvelles de la Renaissance, on dirait qu'il regarde le monde avec un mélange de fraîcheur et d'innocence. C'est sans doute pourquoi l'on peut trouver un plaisir intime à contempler ses réalisations qui font surgir une Venise rêvée, mais intensément vivante, comme le sont les mirages, qui nous requièrent parfois bien plus profondément que les vues fidèles à la réalité. C'est toujours comme ça que j'ai ressenti Carpaccio. C'est comme une grande fable colorée que nous racontent les tableaux peints par ce peintre dans l'univers préservé de la chapelle de l'école d'Almate. Là, voilà, venons-en donc au cycle dont je vais vous parler. C'est la façade extérieure de l'école, donc la Scuola degli Schiavoni, donc la confrérie d'Almate. Elle est restée pratiquement intacte. Le travail d'architecture a été confié à un architecte qui s'appelle Giovanni de Zone. Certains disent Zan, Z-O-N ou Z-A-N. Bon, vous voyez un des bas-reliefs qui représente Saint-Georges-du-Dragon dont nous allons parler. Alors, un mot sur les dalmates, parce que c'est très important, donc c'est un croisé actuel, je n'ai rien à vous apprendre. Ils entretenaient des relations commerciales avec Venise dès l'Antiquité. Et ils étaient, comme les Albanais, des immigrés, des étrangers naturalisés à Venise au fil du temps. Et l'apogée de leurs échanges économiques se trouve justement au XVe siècle, époque où les régions côtières de Dalmatie étaient sous la domination de la Sérénissime. Les Vénitiens achetaient des bois de forêt de Dalmatie, leur achetaient donc des bois et des esclaves venus du monde slave qu'ils revendaient en Orient, d'où le nom Scuola degli Schiavoni, ce qui veut dire des esclavons. On le retrouve deux fois à Venise, le quai des esclavons, Schiavoni. Les dalmates étaient donc des candidats à l'émigration. Ils étaient considérés par les Vénitiens comme d'excellents marins, donc et qui ont fait fortune et qui ont pu s'installer et avoir de superbes maisons. Ils étaient également très profitables à la vie économique de Venise. C'est ce qui explique que le gouvernement vénitien, la République aient répondu favorablement à leur supplique d'obtenir un siège social dès le XVe siècle, c'est-à-dire une école leur appartenant. Alors le Conseil des Dix, hein, qui était l'autorité supérieure de Venise, leur donna l'autorisation d'ouvrir en 1451, au mois de mars, une association avec des statuts. Alors, on appelait ça Marigola, c'est la dérivation du mot regula madre, qui veut dire règle mère. Voilà, c'est exactement le terme qu'il faut employer. C'est une association en bonne et due forme dont le manuscrit est conservé dans les archives de la Scuola elle-même. Hein. Alors, cette Marigola fixe les obligations morales touchant aux messes, aux funérailles et aux œuvres de charité que les membres de la confrérie devaient respecter. Et elle s'occupe aussi, évidemment, des questions financières, des obligations envers la République. Et la confrérie d'Almate avait acquis une belle notoriété, s'était enrichie au milieu des multiples confréries de Venise. On peut dire qu'elle fonctionnait à peu près comme des paroisses, avec un conseil de fabrique, quoi. Ça aidait à résoudre les difficultés de leur vie d'immigrés. Et donc, quand elles avaient pas mal d'argent, ça a été le cas ici, eh bien, elles faisaient venir de grands artistes, des architectes, des sculpteurs et des peintres. Et voilà pourquoi nous allons retrouver Carpaccio à l'intérieur. Alors, nous allons justement rentrer. Alors, oui, un bas-relief, vous voyez, surtout pour le Saint-Georges. Nous rentrons. Voilà, alors, plusieurs d'entre vous, je le sais, ont déjà visité cette superbe salle. Alors, non, attendez, oui. Donc, je suis ici, dans la salle. Vous avez vu qu'à l'extérieur, c'est un édifice assez modeste, mais il est le seul témoignage architectural des Scuole, les seuls qu'on ait vraiment à Venise. Car nombre d'églises et de bâtiments furent détruits après la chute de la République vénitienne en 1806, comme vous le savez, quand elle passa sous la domination de Napoléon. Et presque toutes les écoles de Venise furent alors supprimées par décret. Le nombre d'églises détruites est considérable. Et tous les biens y sont donnés donc à l'État. Mais par faveur, le grand gardien des écoles a obtenu la permission signée par Eugène de Beauharnais, qui était alors le vice-roi d'Italie, permission de préserver, je cite, « le dernier rempart des esclavons ». Ce sont des papiers que l'on trouve aux archives qui sont, disons, à l'étage, parce qu'il y a un étage aussi très beau. Les tableaux que nous allons voir étaient d'abord à l'étage. Alors, donc, cette volonté de conservation nous permet d'admirer aujourd'hui certaines toiles de Victor Carpaccio in situ, dans la chapelle des Dalmates, l'un des intérieurs les mieux conservés et les plus authentiques de Venise. Il nous apparaît tel un centre d'humanisme, témoignage encore intact de la Venise de la Renaissance. C'est un lien entre Carpaccio et l'époque dans laquelle il vécut. Alors, vous avez John Ruskin, qui est un critique d'art anglais, était fort apprécié de Marcel Proust. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent. Et il a été particulièrement mis à l'honneur par le film de Mike Leigh qui vient de sortir, enfin, depuis un mois ou deux, sur la vie de Turner, que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu, car il fait des apparitions tout à fait amusées, où il apparaît d'ailleurs assez ridicule, fâtre, très sûr de lui. Et donc, ce John Ruskin était un des célèbres critiques d'art anglais. Et il fait souvent référence dans son œuvre de critique, dans son œuvre littéraire, à Carpaccio, quand il est question de Venise ou des cathédrales gothiques qu'il idolâtrait. Parce que, en fait, il admirait la science de Carpaccio. Alors, Marcel Proust, on vient tout de suite à lui aussi, évidemment, parce que lui était un admirateur de tout ce qu'écrivait Ruskin. Il découvrit Carpaccio quand il visita Venise en compagnie de sa mère et de quelques amis. Il fut fasciné par ses toiles, et nous retrouvons pas mal d'allusions à ce peintre dans La recherche du temps perdu, notamment quand il évoque le peintre Elstir, ou qui parle du couturier vénitien Fortuny, et des robes d'Albertine. Il garde Carpaccio en mémoire. Proust indique clairement ce qu'il doit aux écrits de Ruskin, son initiateur en matière artistique. Je vous cite l'un de ses propos. Carpaccio est précisément un peintre que je connais très bien. J'ai passé de longues heures à San Giorgio degli Schiavoni et devant Sainte-Ursule à l'Accademia, elle. J'ai traduit tout ce que Ruskin a écrit sur chacun de ses tableaux. Il n'y a pas un jour que je ne regarde des reproductions de Carpaccio. Voilà un amoureux. Les Dalmates donc, ont fait appel à Carpaccio en 1502 pour la décoration de leur école et lui imposèrent comme thème narratif certains épisodes de la vie des saints vénérés en Dalmatie. Évidemment, ils n'avaient pas le choix, les peintres, ils étaient sous l'influence des mécènes. Alors, on a les trois saints dalmates qui forment la Trinité, saint Georges, très connu, saint Tryphon, beaucoup moins, saint Jérôme. Carpaccio était devenu célèbre à Venise pour avoir peint le cycle de sainte Ursule, ce qui explique le choix que firent les membres de la confrérie, ça veut dire aussi qu'ils pouvaient le payer. Vittore s'inspire de légendes médiévales écrites par un moine génois du nom de Jacques de Voragine et qui a écrit ça au XIIe siècle. Ça parle à beaucoup de gens, je sais. Vous savez aussi que ce sont des compilations hagiographiques et fantaisistes connues sous le nom de légendes dorées. Il faut comprendre ça en partant du latin « legenda aurea », c'est-à-dire « digne d'être lu ». Car en fait, elles sont précieuses comme l'or, c'est ça le sens. Elles sont précieuses comme l'or et l'or. Qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente la lumière que répand la foi chrétienne. Voilà. Alors, depuis qu'on est dedans, on va commencer à s'arrêter sur un tableau, donc sur le mur de gauche. Bon, sur le mur de gauche, en entrant dans la salle du rez-de-chaussée, nous voyons se dérouler l'histoire mythique de Saint Georges, né en Cappadoce, patron des chevaliers chrétiens. Il y a trois tableaux, voilà, il y a trois tableaux, alors voilà le premier, trois tableaux qui rappellent cette vie fabuleuse inspirée d'une légende médiévale. Alors je vais me lancer dans la petite histoire merveilleuse. D'abord, comme ça vous avez tout le temps d'admirer cette splendeur. Les habitants de la ville de Sélène en Libye, pour apaiser un dragon terrifiant, était contraint de lui offrir d'abord sa brebis quotidienne, puis sa voracité grandissant, ils durent lui sacrifier un être humain. La victime quotidienne était tirée au sort et la famille royale elle-même n'était pas exemptée de ce tirage. Mais le jour où le sort tomba sur la fille du roi, Saint Georges, chevalier errant, arriva dans la ville et, fidèle à l'esprit de la chevalerie médiévale, attaqua le dragon et le blessa mortellement. Vous voyez ? Bon, on commence bien. Bon, on peut voir aussi dans cette histoire une version christianisée du mythe de Persée qui a délivré Andromède, comme vous savez, des assauts d'un monstre marin, le Léviathan. C'est le même thème, c'est toujours un éternel recommencement. Alors, Carpaccio, aussi pour cette toile, s'inspire peut-être des représentations, enfin de ce que disent certains critiques, des représentations profanes des joutes entre chevaliers qui étaient peintes par Pisanello au palais ducal de Mantoue. Vous voyez que sa représentation picturale, enfin là, je vous laisse, on va passer aux détails après, ça dégage un profond sentiment de nostalgie pour l'époque disparue de la chevalerie. Et bien que Venise soit une république maritime, après tout, c'est pas tellement incongru, parce que le goût des romans français de chevalerie autour de la geste du roi Arthur était très répandu dans les cercles littéraires de la ville, d'où ce merveilleux chevalier sauveur de dames. D'ailleurs, on a pour preuve, vous les avez peut-être vus, puisqu'ils ont été montrés à Paris il n'y a pas tellement longtemps, les abonnés de dessin qui ont été faits par Jacopo Bellini et qui sont conservés au Louvre et au British Museum et qui nous montrent toute une partie de la geste du roi Arthur. Le fait que l'histoire se déroule en Afrique du Nord permettait aux peintres de s'adonner à l'orientalisme. C'est pour ça qu'on va voir cette fameuse Venise toujours rêvée, enchantée, etc., orientalisante. Alors, c'était très en vogue à l'époque, l'orientalisme. N'oubliez pas que les Turcs étaient aussi des clients sérieux pour les Mahométans, comme ils disaient, pour les Vénitiens. Et comme nous voyons ici cet étrange paysage gothique, d'un arrière-plan urbain tout à fait remarquable. Alors, les remarques que l'étude de ce tableau ont suscité chez Michel Serres m'ont toujours intéressée. Vraiment, je peux dire que je suis venue à Carpaccio beaucoup par lui, peut-être. Un mot sur Michel Serres, c'est un philosophe, un historien des sciences, c'est un homme de lettres. Il est né en 1930, et encore des nôtres, heureusement. Toute son œuvre repose sur une volonté de décloisonner les savoirs. Il entremêle le scientifique et le littéraire et s'abreuve aux sources des grandes civilisations. Alors, la lecture de ses ouvrages, elle est assez ardue, mais absolument passionnante. Alors, moi, je me suis nourrie depuis longtemps de son essai « Esthétique » sur Carpaccio, qui est paru chez Hermann en 1970. J'ai découvert après le cycle de Sainte-Ursule, toujours peint par Carpaccio. Et donc, il y a longtemps que je suis tombée sous le charme de ce cycle de toiles peintes où se marie l'élégante fantaisie de la manière vénitienne avec la minutie réaliste d'un peintre flamand, le tout baignant dans une atmosphère irréaliste, onirique et, pour moi, divinement harmonieuse. Alors, regardons le superbe Saint-Georges. Il tue le dragon et libère la princesse, voilà. Hein. Uccide il draco e libera la principessa. 1507. Rouge et noir, c'est comme ça que l'appelle Michel Serres. Rouge et noir. Alors voyons la partie centrale. Sur un fond dilaté dans toutes les directions, ressort, sur toute la longueur de la toile, cuirassé de noir, le chevalier chrétien, le héros à la lance, le porte-épée doublement doriforme. Vous comprenez, il porte à la fois une épée et puis une lance. Il se redresse, un peu incliné sur la selle rouge du cheval, lui-même harnaché de parements rouges. Il tient la lance, car il dit non au mal et frappe hardiment la gorge du monstre. Sa longue lance rougie, éclaboussée de sang, jaillit de sa gueule ouverte. Alors moi, je voudrais bien voir le monstre. Voilà, regardez ça, la beauté, quel monstre adorable. Vraiment. Oh, mon Dieu, qu'on aimerait être dans ses bras. Il me manquait vraiment. Alors, sur la droite du tableau, regardez, un peu en retrait, la belle dame pour laquelle il fait tout ça. La princesse drapée de rouge, elle assiste debout au combat, tranquille, déterminée, les mains jointes dans l'attitude de la prière. Et elle semble dire « Je suis vierge, protège-moi du monstre, de la violence et du viol. » Certainement. Georges apparaît ainsi comme un chevalier qui sauve sa dame menacée par une horrible créature maléfique. C'est un noble paladin, défenseur de la foi chrétienne, vainqueur du mal, incarné par le monstre. Alors, toute la toile, peut-être qu'on peut faire des allers-retours, toute la toile est traversée par une diagonale qui va de la princesse tout le long de la lance jusqu'à la queue entortillée du dragon, dont les ailes sont vibrées de flèches. Alors, vous me montrez, voilà. Faut bien regarder l'ensemble. Donc, nous voyons la princesse couronnée hissant, voyez, sa noble silhouette, sous la protection d'une église, qui apparaît, vous voyez, dans l'espace fuyant du bord droit en haut du tableau. Voilà. Hein? Je pense que vous voyez bien. Est-ce que c'est clair? Une église qui apparaît dans l'espace. Et vous voyez la fuite en perspective des palmes à la hauteur de sa tête sur le ruban vert jade de la lagune. Vous voyez ? Derrière la princesse, regardez, derrière la princesse, dans le lointain espace maritime, regardez, on aperçoit deux arches. Là, on le voit bien. Que franchit, regardez, la figurine d'un cavalier, c'est vraiment minuscule. Regardez ça. La figurine d'un... Et un drôle de pont branlant, hein, c'est très symbolique chez Carpaccio. Alors, d'ailleurs, c'est typique de ce qu'il veut nous montrer. Regardez ça, le pont, les gens... Alors, on a de l'eau, on a des ponts, un pont en l'occurrence, des arcades, des silhouettes posées entre ciel et mer... Eh bien, nous sommes à Venise. C'est vraiment une des représentations idéales pour Carpaccio. Alors, les ponts de la Sérénissime, sont des lieux de passage, comme vous savez, reliant deux univers complémentaires, qui ont fait de Venise l'épouse de la mer. L'eau porte galères et vaisseaux. Regardez ces splendides vaisseaux qui sortent de l'arsenal, toutes voiles déployées, alors pour donner vie et déverser des richesses sur l'espace terrestre, couvert à ce moment-là de palais, d'églises, de tours et d'entrepôts. Donc on a tout ce qui concerne la mer et la terre. Nous revenons à notre... Alors je crois qu'on a un plan plus serré sur le cheval. Au premier plan, je voudrais voir les... Voilà, alors là vous avez le Saint-Georges qui est tout à fait la même figuration, la même tête que dans Saint-Ursule, le fiancé erré. Voilà, c'est tout à fait le même visage, impassible et blond. Il y a toujours des têtes de chevaux extraordinaires. Alors, je voudrais avoir la bête énorme, là. Voilà, ici. Alors, regardez ça. Au premier plan, la scène se déroule sur le fond d'un ciel lumineux qui éclaire crûment, regardez, les restes humains laissés par le monstre. Sous le chevalier vainqueur, nous sommes saisis par la présence fantomatique d'un homme assis, tel un mort vivant, dans le ventre de la bête. Alors, Michel Serres divague un peu, il parle d'Adam et Ève, dépecés sous l'arbre aux feuilles desséchées. Vous voyez, ça c'est tout l'imaginaire de Michel Serres qui ajoute « C'est une terre stérile, pierreuse, désertique, paradis perdu. Serpents, crapauds, lézards naissent du monstre. » Nous voyons, c'est vrai, un champ fantastique de squelettes épars, de corps tronqués, comme vous voyez, des pieds, troncs coupés qui apparaissent comme des objets absolument surréalistes. Tout dit la destruction et la désolation. Et cette allusion féroce et minutieuse à la mort et à la fragilité de la vie n'est pas du tout isolée dans l'œuvre de Carpaccio. Mais pourtant, regardez, la scène, elle est baignée d'une lumière tellement pure, avec des tons ocrés, que les cadavres morcelés, regardez ça partout, c'est horrible, bien, ils paraissent plutôt comme les morceaux d'un puzzle qui ne nous émeuvent pas. C'est pas fait pour ça. Nous sommes, je cite, au milieu d'une lucidité de l'espace absolument inouïe. C'est le critique d'art Longhi qui fait cette remarque et qui reconnaît chez Carpaccio l'héritage de Piero della Francesca. Cette scène, autrement dit, qui pourrait être morbide, ben elle reste apaisante. Et nous retrouvons chez le peintre vénitien ben le ver lagunaire, regardez, hein, parmi les tons mordorés, des ailes collerette aux pointes acérées, comme celle de la lance de Saint-Georges, sortant brisée, regardez ça, du gosier monstrueux. Ah, on pourrait être épouvanté, mais je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi je suis plutôt saisie par tant de sérénité, de lumière, d'équilibre, de détermination dans le dessin aussi, parce qu'il faisait beaucoup de dessins avant de peindre. On croit toujours que les Florentins dessinaient et que on a beaucoup opposé Florence et Venise à cela, mais enfin, il y a beaucoup de dessins de Carpaccio. On voit des formes peintes comme si elles étaient projetées dans un espace immobile. Et la toile procure une espèce de sensation d'harmonie spirituelle et désincarnée qui nous laisse en dehors de toute analyse psychologique et nous plonge dans l'univers, effectivement, d'une fable mystique. Il n'y a aucune psychologie là-dedans. Une belle fable colorée, perspective cristalline, impassibilité émotionnelle, temps suspendu. Et justement, j'ai lu Rainer Maria Rilke, je relisais dans une de ses lettres, dans le recueil « Lettre à un jeune poète », il fait une remarque énigmatique sous forme de métaphore poétique qui m'a beaucoup touchée et je trouve qu'elle peut donner sens au thème de ce premier tableau. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est en regardant Carpaccio, mais voilà ce qu'il a dit, qu'il dit en tant que poète. Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. C'est tellement beau qu'on peut méditer là-dessus. Alors nous passons au triomphe de Saint-Georges. Toile, ben, toujours huile sur toile, 1507. Alors comme vous voyez, Georges n'a pas détruit le dragon. Un pas de plus, si vous êtes là-bas, sur le mur de gauche, et nous le retrouvons en laisse. Il est épargné, il va bien, soumis comme un chien domestique à son maître, le preux chevalier. La bête, à l'aspect caoutchouteux, vous voyez, gît à sa base, et également à la base du temple hexagonal à coupole ronde, toujours Venise rêvée et magnifiée. Georges, en un geste élégant, vous voyez, les beaux jeunes gens à la Carpaccio, geste élégant du bras armé, semble prêt à décapiter la bête. Alors, est-ce qu'il va lui asséner le coup de grâce? On l'espère. Alors, regardez, noir est l'épée, rouge les toits et les vêtements royaux. Le monstre apprivoisé attire l'attention de ces hommes et de ces femmes vêtues somptueusement qui se tiennent à distance respectable du monstre vaincu. Regardez la partie gauche. Carpaccio a mis un soin tout particulier à recréer une ambiance, disons, authentiquement islamique. Il a emprunté des motifs pour l'architecture et les costumes aux gravures dont je vous ai parlé tout à l'heure, tirées des pérégrinations en Terre Sainte de Bredenbach. Ainsi en est-il des deux tours de gauche et celle du centre qui représente l'église du Saint-Sépulcre, la mosquée et le temple de Salomon à Jérusalem. Et drapée de rouge, la princesse délivrée marche vers le triomphateur. Alors, John Ruskin commente toujours d'une manière délicieuse ce tableau. Voilà ce qu'il dit. Regardez les deux princes qui arrivent à cheval sur la gauche. Le roi mort avec son grand turban blanc. Derrière lui, sa fille à la coiffe rouge, haute comme un donjon. En vérité, je vous le dis, vous pouvez chercher ce qu'au cours des siècles notre monde a produit de plus étincelant. Hardiesse des détails, douceur tranquille d'un art accompli. Les princesses, comme vous voyez, sont royalement hautaines sur leur coiffe en forme de hennin. Les princes enturbannés à l'orientale, la brillante société fait cercle, comme vous voyez, elle est attentive, hiératique, muette. Mais les chevaux, autre détail, s'il vous plaît, voilà, regardez ça, ce groupe-là. Les chevaux sont vivants, pour moi, et participent à la liesse générale. Alors, sur la droite, deux d'entre eux, rapprochés, retiennent mon attention. Le cheval bai, à selle rouge, près du cheval de neige, harnaché de fines résilles noires. Regardez la cavale blanche qui s'étire tout d'un jet à la verticale du garrot à l'encolure, tête dressée. Elle dessine une ligne sinueuse projetée vers le ciel dans une torsion splendide de tout son être. Elle semble hennir de joie, tandis que le petit cheval, tout nerveux et roux, se frotte à son pelage dans une douce accolade. C'est comme si Carpaccio leur donnait la parole. Ce couple animal est superbe d'élégance et de vivacité, et il semble vibrer de contentement et refléter les sentiments, disons, des habitants de Sélène qui sont regardés. Ils sont tous extrêmement compassés. La seule vivacité émotionnelle, c'est les chevaux qui nous la montrent. Et on voit donc ce pauvre monstre ramolli à leurs pieds. Alors, à l'arrière, donc, trône la ville de Sélène en Libye. Par rapport au tableau précédent, on voit la prédominance d'un goût pour la décoration, avec une exhibition de costumes un peu à la façon de Gentile Bellini, qui traitera quelquefois les mêmes sujets. Et nous avons un beau dessin préparatoire de cette toile qui est aux Offices de Florence. Alors, il y a aussi des fanfares. Vous voyez, regardez ça à l'arrière. Hein, on croit entendre le son de ces fanfares, et qui est traduit par aussi le rouge écarlate des joueurs de tambourin. Alors nous passons à troisième tableau, l'épisode final. Eh bien, ça se termine évidemment par un baptême. Saint Georges baptise les gentils. Alors on dit les Sélénites ou les gentils. Alors, pénétré de reconnaissance, le roi de Sélène accepte le baptême pour lui et ses sujets. À propos de gentils, je vous signalais que ça vient du latin gens gentis, veut dire nation, c'est-à-dire que pour les juifs, les gentils, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Et en hébreu, ceux qui ne sont pas juifs, ils les nomment, eux, goyim. Donc, les gentils, ce sont les non-juifs. Alors, nous pouvons admirer ici une superbe scénographie artistique. La cérémonie du baptême, elle se déroule, vous voyez, en haut des gradins d'un édifice dont on aperçoit des colonnes torsadées, peut-être un portique de style Renaissance. Au premier plan, regardez, un lévrier, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui sera enchanté de le voir, un lévrier qui porte avec grâce un collier précieux, visiblement prêt à recevoir lui aussi le baptême en royale compagnie. On peut remarquer le goût prononcé du peintre pour le style flamand dans tous les éléments décoratifs. La minutie qu'il met à souligner les moindres détails, à faire vivre la flore et la faune. Regardez tout ça. Je vous en parlais un petit peu. Comme des signes d'un alphabet qui lui est personnel à lui. Alors regardez, il y a un gros turban blanc, regardez-le, posé sur la première marche là. Il ressemble à un petit personnage, tout lové sur lui-même. Sa calotte, elle est rouge, comme une citrouille, en forme de citrouille. Et elle est rouge comme le beau perroquet, qui est tout emplumé de rouge lui aussi, et qui occupait à becqueter une plante sauvage. Rouge Carpaccio, c'est le cas de le dire. Couleur qui exalte la richesse et la gloire de Venise. Alors les futurs baptisés, regardez-les. On croirait Ursule et son fiancé Irée. Ils sont installés sur l'estrade royale, à droite du tableau. Saint Georges a revêtu sa cuirasse d'une toge sacerdotale. Et Ruskin, le critique, souligne la pose dédaigneuse adoptée par le saint pour la cérémonie. C'est vrai qu'il retient soigneusement son manteau, comme vous voyez, comme préoccupé de ne pas se faire éclabousser. Il a le pied dansant. Regardez ça. Silhouette curieuse. Il verse l'eau bénite d'une coupelle sur la tête penchée des convertis. Et derrière lui, il y a un ravissant échanson placé juste, oui, derrière lui, qui porte une aiguière qui contient l'eau baptismale, quoi. Et voilà qui ressemble fort à ces jeunes Vénitiens qu'on voit dans toutes les toiles de Carpaccio, toujours vêtus élégamment, exhibant leurs jambes, gainées de chausses. Elles étaient toutes, d'ailleurs, ces chausses brodées aux armes des riches compagnies commerciales de la Sérénissime. C'était les icônes de la mode, comme je vous ai dit. À gauche, vous voyez, quelques musiciens au bonnet rouge, perchés sur une estrade, trompettes et tambourines au milieu d'une foule orientale dont nous pouvons admirer la splendeur des vêtements bariolés. Il y a un trio de mahométans, regardez, en conciliabule. Admirez aussi le raffinement des détails vestimentaires. Regardez leurs turbans entortillés comme des serpents, qui contrastent avec la coiffure en forme de donjon des femmes. Regardez ça. Il y a un jeu de forme qui est posé sur la tête d'une princesse qui est prête à gravir les degrés du portique. On aperçoit aussi, ben, si vous la voyez bien, regardez, la femme aux sabots, une femme chaussée de sabots à haut talon, typiquement vénitien. C'était très utile en période d'Aqua Alta. Mais c'était, selon ce qu'on lit, c'était surtout porté par les courtisanes de la Sérénissime. Alors voilà donc les sabots de bois que les Vénitiens appellent Zoccoli di legno. Alors justement, à l'arrière-plan, ben, c'est toujours Venise, encore et toujours, sa ville, qu'il peint inlassablement. Il y a une rue riche d'édifices monumentaux qui culmine sous forme d'un temple à plan central, comme on le voit justement. Alors là, dans la présentation que vous avez peut-être vue à Urbino, les représentations picturales de la Città Ideale et la Cité Idéale comme la rêvaient les artistes de la première Renaissance. Au-delà de la muraille, on voit de nombreuses tours et des flèches qui percent le ciel, tandis que dans le lointain, regardez, il y a deux collines qui descendent doucement vers le centre et qui sont lumineuses sur un fond de ciel plus foncé. Il y a vraiment toute une lumière dorée et des couleurs denses qui unifient tous les éléments picturaux en créant cette sensation atmosphérique si particulière à Carpaccio. On croirait sentir l'air qui émane de la toile, vous voyez, cette lumière. Et nous allons quitter Saint-Georges, le beau chevalier sauveur des dames en péril, pour nous intéresser à Saint-Jérôme, dont les préoccupations sont vraiment très différentes. Alors, vous avez... vous avez en face... voilà, vous avez ici une... Il y a cette toile que vous avez peut-être remarquée tellement elle est originale en général. Quand on l'a vue, on ne l'oublie pas. Saint Jérôme ramène le lion au monastère. La toile, donc 141 par 216, 211 centimètres. Alors, Saint Jérôme... Non ? C'est Saint Jérôme ? Ah, il s'est trompé. Ah, mon cher Claude s'est trompé. Saint Jérôme. T'as pas mis Saint Claude ? C'est déjà ça ? Ça m'aurait pas étonné. Bon. Bon, alors, vous lui pardonnez. Bon. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos moines. Ce saint du 3e siècle de notre ère, Saint Jérôme, est reconnu comme un savant docteur de l'Église. Il a notamment traduit en latin la Bible hébraïque. Il passa les dernières années de sa vie dans un couvent près de Bethléem, selon la légende dorée. Voilà comment le voit Carpaccio. Alors, la première scène se déroule à l'intérieur d'un couvent vénitien, avec quelques touches à caractère oriental. Vous remarquerez, par exemple, qu'il y a quelques personnages à turban, vous voyez ? En turbané, c'est toujours donc le caractère islamique. Et ce tableau est considéré par beaucoup de critiques comme un des plus beaux chefs-d'œuvre de Carpaccio. C'est vrai qu'on peut en apprécier la hardiesse, la vivacité, très inventive dont fait preuve le peintre. Et on pourrait même parler d'humour, si ça n'était pas anachronique. Regardez ça. C'est étonnant, la façon dont c'est fait. Alors, la curieuse histoire de Saint Jérôme et du lion, tirée de la légende dorée, constitue, à l'époque, l'un des thèmes les plus chers à toute la peinture italienne du Quattrocento. En premier plan, à gauche, vous voyez, nous voyons Jérôme, ce vieillard chenu à la barbe fleurie, tout en conduisant un lion à l'aspect docile, il pénètre dans l'espace ouvert de son monastère, ce qui provoque la fuite précipitée des moines, visiblement en proie à la panique causée par l'arrivée de cet animal qui les terrifie, le pauvre petit. Sur l'étendue de la place, entourée d'un décor aux architectures savamment disposées, regardez la superbe élégance. Le récit déroule ces épisodes basés sur l'apparition du fauve accompagnant Jérôme. Alors, selon la légende, un lion s'était rendu auprès de Jérôme, qui était en prière, afin d'être libéré d'une épine qui lui faisait mal. Alors, opération faite, l'animal guéri et reconnaissant ne l'a plus quitté d'une semelle, enfin, si l'on peut dire, d'un pied. Et donc, l'épisode, vous voyez, est illustré ici, à gauche. Ah, c'est une scène savoureuse, regardez ça, la papatte là, voilà. C'est une scène absolument savoureuse qui a plu beaucoup aussi à Ruskin, qui trouvait amusant, je cite, « le lion souriant délicatement, la tête inclinée sur le côté, comme un saint du Pérugin, et soulevant délicatement la patte droite, un peu pour montrer la plaie causée par l'épine, un peu en manière d'excuse. » Vous voyez jusqu'où il va. Donc ça, c'est vrai que c'est absolument délicieux, puis quand on voit le jeu des formes. Alors, regardez. Je paraphrase. Au premier plan, la composition audacieuse est faite de lignes obliques. Elle dessine les vêtements des moines dominicains qui s'égayent de tous côtés en courant, en glissant, comiquement affolés. Les soutanes volent au vent, éclairant de bleu et de blanc les lieux du monastère. Seuls les palmiers. Les orientaux en turbané, quels animaux exotiques, situent l'épisode à Jérusalem, où suivant la légende dorée, s'était retiré Jérôme. Alors ce jeu de formes et de tons blancs, vert foncé, se remarque de loin et répond au rythme créé par les silhouettes des moines. Regardez, ces moines en arrière-plan, ils fuient en montant l'escalier qui mène à l'intérieur de l'édifice. On dirait, en s'amusant, disons que c'est une séance de ballet au couvent, un vol d'hirondelles effarouchées, pressées de fuir et d'aller se nicher je ne sais où. Alors, le critique d'art Perocco, écrit en 1964, il identifie ce magnifique édifice comme étant l'origine, enfin le bâtiment tel qu'il était à l'époque quand l'architecte Giovanni d'Azzon l'a fait pour la confrérie, vous voyez. Et il était pourvu d'un magnifique balcon. Mais ce que nous avons est donc, enfin, sans doute aussi peut-être embelli, puis entouré d'un couvent. Et vous avez vu le reste, ce que nous voyons à Venise aujourd'hui. Alors, regardez ça, le mouvement animé des soutanes flottantes. Encore un autre détail, voilà. Autour du corps des moines, agité de frissons, regardez les clés qui dansent à la ceinture du portier. Tout cela provoque une réaction amusée et contraste, alors regardez, avec le calme absolu. À l'arrière, ce calme absolu, nous retrouvons à ce moment-là cette atmosphère paisible si chère à Carpaccio et son intérêt pour les détails qui donnent vie au monde qu'il peint. Il y a des brins d'herbe, des fleurs, des animaux domestiques, des arbres pommelés en forme de parasol. Et l'émerveillement, enfin, si on peut dire, vient aussi de cette extraordinaire composition formelle que les amateurs apprécieront certainement. Le jeu des ombres, la gamme lumineuse que vous voyez avec des tons changeants partout. C'est vrai que ça, j'aime beaucoup regarder cette toile parce que ça me donne une sensation de plaisir, de joie simple, mais subtile, très subtile, parce que à cause du grand raffinement avec lequel il est réalisé. Je vous laisse encore l'admirer et surtout, si vous allez à Venise, ne la manquez pas. Alors nous voyons le suivant qui est moins spectaculaire, dirons-nous. Moi, ce sont évidemment les funérailles. Alors là, un mot très simple, c'est une toile toujours pareille, 141 par 211 cm, avec des dessins préparatoires. Alors là, nous avons sous les yeux un modèle de simplicité dans l'exécution qui dégage une grande spiritualité. Alors le corps du saint est étendu par terre, comme vous voyez, entouré par les moines, récitant l'office des morts. Jérôme est étendu sur le parvis du même couvent, dont l'architecture montre encore quelques touches d'orientalisme. Mais il y a une chose curieuse, ce qui se passe à l'arrière-plan, ça procède visiblement d'un autre monde. Regardez, ça n'a rien à voir. Le premier plan funérailles, et à l'arrière, chacun va à ses occupations, sans lien avec la scène mortuaire au premier plan. C'est vraiment une toile admirable d'équilibre et de sérénité, et encore une fois, un intérieur, une vue extérieure de Venise, baignée de cette lumière chaude et dorée, qui enlève toute dramatisation, comme vous voyez, à la peinture de cet événement funèbre. Et Jérôme, que vous voyez ici étendu, qui bientôt sera enterré, nous allons pourtant le retrouver avec le chef-d'œuvre absolu selon la critique universelle, le chef-d'œuvre absolu de la Scuola degli Schiavoni. Alors, je termine avec lui, bien sûr. On l'appelle la vision de Saint-Augustin ou le cabinet de Saint-Augustin. Saint-Augustin, pourquoi ? Alors, vous venez de voir, Saint-Jérôme est mort et enterré, mais nous allons le retrouver dans le tableau que vous avez sous les yeux. Ou plutôt, pas lui, mais son hypostase. Ça veut dire sa manifestation sous forme d'une lumière d'essence divine. Nous sommes devant donc ce qui est considéré comme le tableau chef-d'œuvre de l'école dalmate. Celui qui parle peut-être le plus intimement aux amoureux de Carpaccio à ceux qui aiment aussi contempler le songe de Sainte-Ursule que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, rouge et blanc, c'est ainsi que le qualifie Michel Serres, qui l'oppose au combat de Saint-Georges, qu'on a vu tout à l'heure, contre le dragon qu'il appelait rouge et noir. Alors, donc, on l'appelle la vision de Saint-Augustin. En effet, le dernier des tableaux de la vie de Jérôme ne montre pas Jérôme, mais Saint-Augustin, son contemporain. Cependant, Carpaccio, comme vous le voyez, a transféré l'histoire de Saint-Augustin, des débuts de l'ère chrétienne, hein, il est du IVe siècle, à la Renaissance, pour faciliter la compréhension des Vénitiens de son temps. Alors d'abord, quelques mots sur ce grand Saint-Augustin, ce grand homme, ce grand écrivain aussi. Il est né dans la ville de Carthage, romanisée, en 354. C'est un philosophe et un penseur chrétien des plus éminents, un père de l'Église. Il fut d'abord adepte de la philosophie manichéenne, avant de se convertir au christianisme à l'âge de 32 ans. Et on sait qu'il a vécu une jeunesse houleuse et débauchée, et que deux femmes ont compté beaucoup dans sa vie. Sa mère, Monique, qui sera sanctifiée, puisqu'on la connaît sous le nom de Sainte Monique, qui aidera beaucoup à sa conversion, et sa concubine, avec laquelle il vécut 13 ans, dont il ne parle pas, mais il parle de son fils, Déodatus, un beau nom, parce que ça veut dire « donner à Dieu ». Et c'est lui-même qui se raconte dans son autobiographie que vous connaissez, qui s'appelle « Les Confessions », la Pléiade, on le trouve en Pléiade, ça a été édité en 1998, mais on le trouve dans d'autres éditions. C'est les Confessions, imaginez, au IVe siècle. C'est un genre nouveau dont le titre, comme vous savez, sera repris par Jean-Jacques Rousseau. Et puis aujourd'hui, ça n'arrête pas, tout le monde se confesse. Personne ne croit plus à rien et tout le monde se confesse. Il y raconte, entre autres événements, les circonstances de sa conversion. Alors, donc, on est toujours avec Saint-Augustin et ses confessions. Imaginez-le dans le jardin d'une villa de 1000 ans. Il entendit, c'est lui qui parle, enfin, je le fais parler. Il entendit une voix qui disait et répétait « tolle et legge », en latin, ce qui veut dire « prends et lis ». Alors, ce qu'Augustin a pris comme une injonction divine, celle de lire l'évangile dont sa mère lui parlait tant. Il obtempéra, il fit cette lecture, ce qui préluda à sa conversion. Alors, j'ai retenu cet épisode majeur dans la vie d'Augustin, parce que Carpaccio nous le montre justement à l'écoute d'une voix en plein songe, comme Sainte-Ursule dans sa chambre virginale que vous verrez tout à l'heure. Regardez, au premier regard, nous sommes pris par le charme de cet intérieur accueillant, sublimé par l'expression des couleurs chaudes, et nous entrons fascinés dans un studiolo de la Renaissance italienne qui rappelle ceux qu'ont été les palazzo, comment dire, au palais ducal d'Urbino, il y en a un qui est conservé, celui de Gubbio est en pièce dans un musée de New York. Cette pièce reproduit de manière idéale le bureau d'un humaniste cultivé et raffiné de l'époque, passionné de lecture, d'astronomie, de sculpture et de musique. L'intérieur spacieux contient un mobilier soigné, et plusieurs pièces de qualité, bien en vue sur l'écritoire, sur le banc, sur l'estrade, sur les étagères le long des murs. Dans la lumière forte, alors regardez bien, la lumière forte qui vient, vous voyez, sur la droite, par trois fenêtres fendues, vous voyez, trois fenêtres fendues, d'ailleurs, il faut y voir tout de suite un signe de la Trinité, trois fenêtres fendues, tous les objets apparaissent crûment, pratiquement dans une sorte de pureté. Regardez les reliures des volumes, les feuillets enluminés des Michel, les pages de musique. On aperçoit même les clous brillants qui fixent les topes vertes de l'écritoire et celles de l'estrade. Et nous voyons Saint-Augustin, baigné dans une clarté lumineuse qui envahit la pièce. Ce tableau a longtemps été considéré comme la représentation de Saint-Jérôme dans sa cellule, jusqu'au jour où, en 1961, une critique américaine, Hélène Roberts, après lecture des documents laissés par Carpaccio, put prouver qu'il s'agit de Saint-Augustin. Au moment même de la mort de Jérôme, il est mort en 420, Saint-Augustin mourra 10 ans plus tard. Saint-Augustin eut une vision alors qu'il était dans son cabinet de travail. Alors regardez, tout à coup, c'est l'impression que l'on ressent en face de ce tableau. Le studio l'eau du Saint s'emplit d'une lumière, une clarté extraordinaire. On le voit interrompant son travail d'écriture, la tête levée comme aspirée vers la lumière, la plume au poing soulevé, l'air absorbé par un ailleurs, hors champ. Saint-Augustin est saisi par le peintre au moment où il entend la voix de Saint-Jérôme lui annoncer sa mort et sa montée vers le Christ. Carpaccio veut nous montrer la concentration intérieure du saint en dialogue avec Jérôme, qui lui est invisible, puisqu'il est lumière, hypostase. Alors la lumière dorée qui émane des trois fenêtres, donc c'est une allusion à la Trinité, symbolise la présence divine par la voix de Jérôme. Tous les deux, c'était de savants théologiens, ils ont beaucoup écrit et commenté des ouvrages de philosophie antique, en se posant de nouvelles questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament, alors que justement le christianisme s'imposait quand l'empereur Constantin a proclamé l'édit de Milan en 302. Donc vous voyez, c'est une idée pour nous montrer tout le travail intellectuel d'Augustin. Alors les livres, comme vous voyez, personnages majeurs, sont sur cette toile, s'exposent de tous les côtés. L'écrit court partout sur la surface peinte. Je cite... L'œuvre picturale naît de la parole et culmine avec le geste de la main levée tenant une plume. C'est un écrivain français, Jean Roudot, qui écrit cela en 1981. Il a écrit un livre en collaboration avec le critique d'art Perocco. Tous ces livres que vous voyez, nous allons approfondir ça, sont une allégorie du savoir et de l'itinéraire spirituel de Saint-Augustin. Et leur aspect savamment ordonné marque une recherche intellectuelle constante. Sur le plan iconographique, la scène s'inspire de la tradition flamande, représentant un savant. Il s'agit souvent d'ailleurs de Saint Jérôme, c'était un sujet très prisé par les peintres de l'Europe occidentale, tel Jan van Eyck par exemple. Carpaccio est visiblement inspiré par leur technique méticuleuse. L'écrivain est assis à sa table de travail. Les nombreux objets de petite dimension qui couvrent les tables et les étagères sont rendus de façon précise, minutieuse, soignée. Alors le goût de Carpaccio pour la peinture flamande apparaît aussi dans la sensibilité avec laquelle il restitue la lumière qui, venant donc des fenêtres de droite, en trois longues raies lumineuses, inonde la pièce d'un chaud rayonnement et donne comme un reflet naturaliste aux objets métalliques. Il était important que certains objets fussent particulièrement lisibles car beaucoup d'entre eux ont une valeur de symbole. En effet, ils font allusion à la réconciliation harmonieuse entre le savoir profane et le savoir sacré qui est, comme vous le savez, l'idéal de la Renaissance. Alors vous avez un plafond à caissons très ornés qui souligne la profondeur de l'espace et donne une idée de la science de Carpaccio en matière de perspective qu'il doit à sa connaissance de Piero della Francesca. Et placé en premier plan à droite, voici le philosophe donc à sa table de travail, sur un banc, hissé sur une estrade, position qui le met en majesté. Il fait figure de savant à la barbe fournie, la tête couverte d'une sorte de capuce de moine ronde et noire. Il est vêtu d'une aube blanche qu'un camail noir, vous voyez, recouvre souplement. Vous voyez le rouge des plis de sa soutane qui souligne le tapis vert sombre dont l'estrade est recouverte. Et il y a aussi un rappel discret du rouge au bout de sa manche blanche. Et le critique d'art Perocco identifie la tête du saint comme étant un portrait d'un homme de l'époque, le portrait idéalisé du cardinal Bessarion, contemporain de Carpaccio. C'est un homme qui est né en Turquie, à Trébizonde, et qui est venu à Venise et a mené une très belle carrière. Ce fut un prélat, lettré, mécène et collectionneur, qui légua sa riche collection de manuscrits grecs et latins à la République de Venise. Ils sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque Marciana. En 1464, en tant que protecteur de la confrérie de San Giorgio, justement, il lui accorda certains privilèges. C'est ainsi qu'il aurait mérité d'être peint et d'avoir la place d'honneur dans la scuola. Carpaccio, d'ailleurs, rappelle son titre, regardez ça, en représentant le sceau épiscopal de Bessarion au premier plan du tableau. Vous voyez ? Au-dessus de la figure du saint, c'est au-dessous de la figure du saint, le médaillon ovale. Sachant que, aussi, enfin, il faut savoir que les cardinaux de l'époque cultivaient la splendeur. C'était pas... Il fallait se montrer beau, riche et puissant. Et il participait à la sociabilité citadine, tel le cardinal Hippolyte d'Est, très célèbre à Ferrare. Alors, à gauche, regardez. Alors, surtout, il est beau, il est mignon, il est en pleine lumière, il est au pied de l'estrade, c'est un bichon maltais assis, et il contemple le savant à distance respectueuse. Il semble à l'écoute lui aussi, en symbiose avec saint Augustin. Alors ça, il faut savoir qu'à l'époque, le chien représentait un symbole de prophétie, car on le croyait sensible au surnaturel. Et on le disait même visionnaire. Je sais que ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Il n'est donc pas du tout un élément décoratif comme on l'a cru pendant une époque, parce qu'on voit, on pense à ce petit chien blanc, bon, ben, c'est joli, ça décore. Pas du tout. Il fait sens dans la représentation que nous donne Carpaccio, parce qu'il a la même vision que le saint. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, par contre, entre parenthèses, c'est plutôt le chat qui en associe aux chambres des écrivains. Mais à l'époque, le chat, ce charmant félin, était mal vu par l'Église, qu'il considérait comme une créature démoniaque. Alors, le chien, par contre, le lion, c'était noble. Alors, nous pouvons identifier les objets tous savamment disséminés dans l'espace du studio. Alors, on revient à la longue table, d'abord. Voilà. Donc, sur la longue table, posée sur deux pieds de ferronnerie très ouvragés, tripode, on ne voit pas bien l'autre. Voilà, vous voyez. Vraiment de la belle ferronnerie. On distingue la panoplie de l'écrivain de l'époque. Un encrier, un pot à sable pour sécher l'encre, des ciseaux, un coquillage appelé porcella da lissar, justement pour lisser les parchemins. Une clochette pour appeler, pour chasser le diable. Des manuscrits, un livre d'heures enluminé, la couverture ouvragée, la couverture d'un ouvrage relié rouge et bleu, un sablier, regardez, est visible sur l'étagère surchargée de volumes. Au premier plan, placés contre le montant de l'estrade, des livres à demi ouverts ou fermés, dont deux feuilles distinctes sont mises en valeur. L'une au premier plan fut identifié par le critique d'art Lovinsky en 1969 comme étant une partition de musique profane. Au pied d'Augustin, placé sur un petit lutrin, on peut reconnaître une partition de musique sacrée. C'est ainsi que Carpaccio nous fait sentir aussi l'importance de la musique pour un humaniste de son époque. La musique était de toute façon à l'époque considérée comme inséparable de la foi dont elle est l'expression majeure. C'est pour ça que nous avons tant de chefs-d'œuvre musicaux de l'ancien temps. Saint Augustin, d'ailleurs, en parle et écrit savamment sur la musique dans son ouvrage « La cité de Dieu ». Angelo De Chambrio, c'était un vénitien lettré de l'époque, écrit que dans la bibliothèque d'un humaniste doit se trouver, je cite, « un luth pour se délecter de musique ». Alors ici, vous ne le verrez pas, mais on peut voir cet instrument parmi d'autres sur les murs marquetés du merveilleux Studiolo d'Urbino, que vous avez visité sûrement. Et un humaniste digne de ce nom devait aussi, dit-il, s'adonner aux collections d'objets d'art pour montrer sa magnificence. C'est un concept absolu. Il fallait se montrer puissant, riche et donné. Alors nous distinguons un cartellino. On revient à un autre plan, s'il vous plaît. Le bichon, voilà, le cartellino, un petit panneau. Eh bien, c'est donc la signature du peintre. On trouve ce panneau dans chaque tableau de Carpaccio. Et c'est là qu'on voit, c'était un homme lui-même épris de culture, puisqu'il signe en latin Victor, vainqueur, Carpatius, IUS. Il signe parfois Finxit avec un F. Ça veut dire qu'il veut montrer à ce moment-là qu'il a imaginé, créé un monde. D'autres fois, il dit Pinxit. Il a peint, il a simplement peint. Ici, c'est Finxit. Vous voyez la différence? Il distingue lui-même ce qui est de, je sais pas, de sa création personnelle, de l'illustration. Vous pouvez constater en effet que le peintre a déployé tout son talent créatif pour nous montrer la totalité de l'érudition telle que le Moyen-Âge et la Renaissance l'avaient conçue. Alors vous voyez que c'est un espace consacré au savoir. Et ce savoir comprend deux sphères. La sphère du sacré et la sphère du profane. Alors je commence par la sphère du sacré. Au fond de la pièce, vous voyez, quasi rectangulaire, en plein centre, nous voyons un autel sur fond rouge, encastré dans une absidiole. Il porte la statue de bronze doré d'un Christ solennel, hissant une croix en rubanée d'oriflamme, symbole de triomphe. La statue est entourée de deux chandeliers, d'une mitre posée sur le bord gauche, le bâton pastoral en forme de crosse zèbre le devant droit de l'autel. À l'aplomb au-dessus de la tête du Christ, sous la voûte en arcade, se trouve une niche recouverte d'une coupole à mosaïque rouge et doré dans le style byzantino-vénitien. Carpaccio y a peint quelque chose d'adorable. C'est un ange séraphin, c'est-à-dire c'est un ange porteur de trois paires d'ailes, pourpre, rouge, toujours rouge. Et au-dessus, un très gracieux encensoir que les Italiens appellent d'un joli nom le Navicella, c'est-à-dire en forme de nef qui se balance comme ça. Regardez, vous voyez l'ensemble, comme vous voyez, ça forme toute une ligne verticale, une montée vers le ciel, évidemment, vers Dieu. La couleur rouge, si présente dans l'œuvre de Carpaccio, parle ici évidemment de l'amour de Dieu, justement, et de sa puissance terrestre. Elle avait aussi valeur de prestige, tout comme à l'époque antique. Alors, au-dessous de l'autel, regardez. Grâce aux rideaux vert sombre à demi relevé en plis harmonieux, eh bien, on aperçoit une étagère avec des objets liturgiques et des livres empilés. Alors, le mur de gauche, s'il vous plaît, le mur de gauche. Oui, c'est bien, le mur de gauche. Vous voyez, un fin piédestal de couleur rouge plus atténuée. Trône sur ce piédestal, vous avez une élégante cathèdre, c'est une chaise gothique à haut dossier qui est placée devant un prie-dieu qu'on appelait aussi un prie-dieu à pupitre, un agenouilloir. Et l'ensemble, ça forme, si vous voulez, forme un oratoire qui est propice à la méditation et car il fait face à l'autel. Donc c'est la sphère du sacré. Quant à la sphère du savoir, à gauche dans le fond, regardez ici. Il y a une porte ouverte sur une pièce minuscule qui est pourvue d'une fenêtre pour donner de la lumière un peu comme chez les Flamands, comme étant Carpaccio. Nous distinguons une table à demi couverte d'une nappe rouge. La table est posée sur deux tréteaux en forme de jambes croisées. On y aperçoit, regardez, un lutrin tournant, rempli de livres et différents instruments scientifiques et astronomiques. Alors, c'est le critique d'art Lovinsky qui les a identifiés. Alors, il y aurait donc là-dedans, vous voyez suspendu là-haut, un cadran, un pentagramme, c'est-à-dire une forme à cinq éléments, et un astrolabe. Alors, l'astrolabe, il est celui de Reggio Montano, parce que c'était le seul qui existait à l'époque, et c'était le cardinal Bessarion qui le possédait. Il était collectionneur de raretés. Donc voilà ce que les critiques ont pu nous dire. Tous ces objets ont donc été identifiés. Alors, le long de la paroi gauche, regardez, s'allongent deux étagères surchargées de livres aux couvertures éclatantes. On y voit aussi une collection d'antiques, dont on doit s'honorer tout humaniste de la Renaissance. Le goût de l'antique apparaît sous forme des petits bronzes, vous voyez, des petits bronzes romains, un cheval, des vases, petits vases pansus, et alors une statue de femme nue, celle de Vénus. Mais elle a tout à fait sa place, parce que elle rappelle l'amour et les plaisirs qu'a connus Augustin dans sa jeunesse. Sur les murs, vous voyez des appliques, des portes-chandelles qui sont placées symétriquement face à face. Elles empruntent, si vous regardez bien, la forme d'une patte griffue de lion. Encore un symbole, parce que ce royal animal représentait Dieu, le Tout-Puissant, dans la symbolique médiévale. Ça ne vous fait pas penser au film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête ? Ah, il y avait ça, oui. J'y ai pensé tout de suite. Carpaccio, comme vous le voyez, cherche à concilier harmonieusement sphère sacrée et sphère profane. Alors, je paraphrase ce que dit Lovinsky dans un livre paru en 1959. Le Christ ressuscité, là que vous voyez, là, en bronze, dans la niche centrale, il trouve sa contrepartie profane dans la statuette en bronze d'un nu féminin, placée sur l'étagère à l'extrême gauche. On pense à Vénus. Hein. Au mobilier liturgique de l'armoire, au-dessous de l'autel, correspond à côté de la fenêtre de droite, regardez ça, une sphère armillaire, symbole du savoir, de la recherche scientifique, invention européenne de la Renaissance. Les partitions musicales sont mises en évidence au premier plan. Elles ont été identifiées. L'une représente une hymne sacré placé sur le petit lutrin, tandis qu'une chanson populaire s'étale en bas à droite du tableau. Vous voyez les rapports que l'on peut faire. Sacré, profane, profane, sacré. Les livres, alors ça c'est intéressant, les livres sont au nombre de 94. Alors je vous dis tout de suite que je ne les ai pas comptés, mais Michel Serres, lui, les a comptés. Alors, dans son analyse du tableau, il précise que saint Augustin, dans l'un de ses traités, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les rétractations ». Il a écrit ça en 1426. Et c'est un ensemble, c'est comme une revue bilan de ses ouvrages. Et le théologien, lui-même, donne une somme de 94 écrits avec des titres comprenant parfois des textes en plusieurs livres. Alors, je cite Michel Serres. Comptez soigneusement le nombre des volumes répandus épars sur la toile. Table, étagère, estrade, cabinet, 94 en toute exactitude. Carpaccio, qui s'en étonnera ? Dénombre l'œuvre sans omission. Augustin peuple la cellule de son corpus écrit. Le 94e écrit figure où ? Oh, vous allez le trouver, dans le Cartellino, voilà. Dans le Cartellino, c'est Michel Serres toujours, où le peintre place sa signature. Alors, nous allons maintenant mettre face à face, pour terminer, voilà, deux chefs-d'œuvre. Face à face, dans ce merveilleux chef-d'œuvre que nous venons de voir, là, voilà, saint Augustin entend la voix de Jérôme, mais il ne le voit pas. Sainte Ursule, elle est endormie, couchée dans son lit à baldaquin. Vous connaissez peut-être le tableau. C'est en rêve qu'elle voit un ange baigné de lumière que le peintre lui a représenté. Elle l'entend lui annoncer son martyr prochain, autrement dit sa mort. Et c'est Michel Serres toujours qui appelle cela, avec beaucoup de justesse, une annonciation inversée. Et c'est vrai, parce que toute annonciation canonique veut que l'ange Gabriel dise à la Vierge qu'elle est enceinte, qu'elle va enfanter du Sauveur, c'est-à-dire qu'elle va donner la vie. Or ici, eh bien, il lui annonce sa mort, puisqu'elle sera égorgée après à Cologne. Mais dans la vision de saint Augustin, c'est saint Jérôme qui est invisible regardeur que nous sommes, qui annonce à saint Augustin qu'il vient de mourir dans la béatitude divine tant attendue. Saint Ursule et saint Augustin sont les porteurs muets de la parole divine dont ils sont imprégnés. Deux figures mythiques de l'univers de Carpaccio. Ils songent tous les deux, pris dans la lumière dans le rayonnement d'une lumière absolument surnaturelle. On est en plein domaine, champ métaphysique, quoi. Et le critique d'art Vittore Sgarbi, un Italien, qui étudie cette toile, écrit ceci. La grande idée de Carpaccio est d'avoir fait coïncider la lumière de l'esprit avec la lumière physique, le foudroiement des rayons de l'esprit avec les rayons du soleil. Alors écoutez, avant vous ne soyez vous-même foudroyé et moi anéanti, parce que ça va venir, je vais conclure en évoquant rapidement la postérité du peintre Carpaccio. Ça pourrait regarder ces petites merveilles derrière moi. Alors, malgré le jugement de Vasari, critique bien connu, pour qui seuls les artistes toscans sont grands, l'œuvre de Carpaccio n'a pas connu de vrai purgatoire. Seules les appréciations critiques ont varié. Au XIXe siècle, par exemple, elle suscitera l'enthousiasme des pré-raphaélites anglais, qui sont intéressés surtout par la symbolique des plantes et des fleurs. Mais c'est surtout après la ferveur enthousiaste de John Ruskin et de ses disciples, dont Proust, qu'il devient à la mode. Alors, on en fait surtout alors un illustrateur. Ensuite, c'est le travail des critiques d'art tels que Ludwig Molman, qui en 1906, plus tard Longhi et Fiocco en 1930, qui ont reconnu en Carpaccio un héritier de Piero della Francesca et d'Antonello da Messina. Et depuis, nombre d'auteurs ont étudié l'art de ce peintre avec des approches différentes et des analyses plus fouillées. Et il y a eu une grande exposition en 1960 au Palais des Doges qui a montré que le public s'intéressait vraiment à ce peintre singulier, le Vénitien par excellence, témoin de son temps. Quant à aujourd'hui, il faut voir les visiteurs qui se pressent au musée de l'Accademia, dans la salle de San Orsola, justement consacrée aux 9 toiles de la vie de Sainte-Ursule, pour comprendre que l'art de Carpaccio est de ceux qui occupent une place de choix dans le panthéon et le cœur des amateurs de peinture. Heureusement, la foule ne se presse pas, elle, au rez-de-chaussée de la Scuola degli Schiavoni, celle que je viens de vous montrer. C'est pourquoi nous pouvons, alors c'est le plaisir qu'on a eu, nous laisser aller au plaisir secret de la contemplation en compagnie de ces visages, de ces paysages magiques, de ces formes élégantes, de ces couleurs inscrites dans l'espace lumineux créé par Carpaccio. C'est comme si nous étions dans un sanctuaire où il fait bon songer et savourer le plaisir de vivre un moment entre le rêve et la réalité. Merci.